pour un instant au moins, on préfère se replier sur la pragmatique ou affirmer sans se cacher un mépris de l'éthique. Nous pouvons en observer un exemple tragique en Colombie, où a été engagée tout d'abord sous le signe du marxisme une lutte pour la libération des petits paysans, de ceux qui sont piétinés par le grand capital. Aujourd'hui, à la place de cela, s'est développée tout simplement une république rebelle, soustraite au pouvoir de l'État, qui vit ouvertement du trafic de la drogue et qui ne cherche plus de justification morale, d'autant qu'elle satisfait ainsi une demande des pays riches et qu'elle donne en même temps du pain à des gens qui, autrement, n'auraient plus guère de place dans l'ordre économique mondial. Dans une telle situation de désarroi, le christianisme ne doit-il pas s'efforcer très sérieusement de retrouver sa voie afin d'introduire le nouveau millénaire dans son message, de le donner à comprendre comme une orientation commune en direction de l'avenir? Où se trouvait la voie de la foi chrétienne à cette époque? En 1967, lorsque ce livre est né, les fermentations des débuts de la période post-conciliaire étaient au plus haut. Le deuxième concile du Vatican avait voulu en effet très précisément cela, donner à nouveau au christianisme une force qui le rende capable de contribuer à façonner l'histoire. Au XIXe siècle, l'idée s'était développée que la religion relève du domaine de la subjectivité et du privé, et que c'est là qu'elle doit avoir son lieu. Mais précisément, pensait-on, parce qu'elle doit être comptée parmi les réalités subjectives, elle ne peut pas représenter une force déterminante pour le cours de la grande histoire et pour les décisions qui doivent y être prises. Or, à la suite du Concile, il devait apparaître à nouveau que la foi des chrétiens englobe la totalité de la vie, qu'elle s'inscrit au cœur de l'histoire et de son temps, et qu'elle a une pertinence qui va au-delà du domaine des représentations subjectives. Le christianisme a essayé, dans l'optique de l'Église catholique en tout cas, de quitter à nouveau ce ghetto dans lequel elle avait été refoulée depuis le XIXe siècle, et de s'engager de façon nouvelle dans le monde, dans sa totalité. Il n'est pas nécessaire ici de parler des controverses et des frictions intérieures à l'Église qui se sont manifestées à propos de l'interprétation et de l'appropriation du Concile. Pour la place du christianisme dans le monde, c'est l'idée d'une relation nouvelle entre l'Église et le monde, surtout, qui manifesta ses effets. Si Romano Guardini avait forgé dans les années 30 la notion très nécessaire de distinction de ce qui est chrétien, Unterscheidung des Christlichen, une telle distinction ne semblait plus nécessaire maintenant. Ce qui semblait nécessaire, au contraire, c'était de sauter par-dessus les différences, d'aller vers le monde, de s'y engager. Déjà, les barricades de Paris en 1968 firent apparaître avec quelle rapidité ces idées avaient quitté les discussions des académies ecclésiastiques, Kirchlicher Akademien, et ont pu devenir très concrètes. On célébrait une Eucharistie révolutionnaire et on mettait ainsi en pratique une nouvelle fusion entre l'Église et le monde sous le signe de la Révolution qui devait permettre enfin de se mettre en route vers des temps meilleurs. La participation influente de communautés étudiantes catholiques et protestantes au bouleversement révolutionnaire dans les universités en Europe et hors de l'Europe confirmait cette même orientation. Mais c'est en Amérique latine que l'éclair de cette transposition nouvelle des idées dans la pratique, cette nouvelle fusion entre impulsion chrétienne et action politique profane, a véritablement mis le feu. La théologie de la libération sembla indiquer pendant plus d'une décennie la direction nouvelle qui permettrait à nouveau à la foi d'imprimer sa marque au monde, parce qu'elle s'alliait de façon nouvelle avec les connaissances et les orientations de l'heure. Le fait qu'en Amérique latine, l'oppression, les dominations injustes, la concentration des biens et du pouvoir entre les mains d'un petit nombre et l'exploitation des pauvres existaient dans des proportions effrayantes était incontesté. Et il n'était pas contesté non plus qu'il était nécessaire